Interview.
'Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, avec moi sur le plateau de RDWA, Sylvaine Moplot, animatrice de Ciné Marmot, une association dont l'objet est de favoriser et soutenir les communications bienveillantes entre adultes et enfants, qu'ils soient entendants ou malentendants, ainsi que Violaine Brun et son fils Ananda qui utilisent les services de Sylvaine Moplot. Et d'ailleurs, lundi 16 septembre à 15h30, au Loco Loco, se passera un des ateliers de l'association Ciné Marmot de Sylvaine Moplot. Sylvaine, Violaine et Ananda, bonjour.
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 Alors, on va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce que cette langue des signes, d'où vient-elle ?
Alors, la langue des signes, elle vient des sourds. C'est la langue naturelle des sourds qui est utilisée depuis la nuit des temps. Avec quelques évolutions, donc l'histoire de la langue des signes, elle est à rebondissement en France, parce que pendant très très longtemps, en fait, les sourds étaient considérés comme des simples d'esprit, puisqu'ils n'avaient pas la parole, donc ils ne recevaient aucune éducation. La Renaissance, le siècle des Lumières, Montaigne, voilà, ça a apporté beaucoup d'éclairages nouveaux. Et on s'est aperçu que les sourds pouvaient communiquer d'une manière sensée et spontanée entre eux. Donc le grand virage dans l'histoire de la langue des signes, ça a été un abbé qui s'appelait l'abbé de l'Épée, qui fort de ses constatations, a créé une école pour les sourds, la première école pour les sourds, dans laquelle il enseignait le français. Donc, aux signes spontanés des enfants, il a ajouté quelques signes grammaticaux. Enfin, voilà, il a fait quelque chose qui n'était pas encore la langue des signes, mais qui allait en tout cas vers le respect de cette particularité des personnes qui n'entendent pas et qui donc ne peuvent pas parler comme tout le monde.
C'était vers quelle époque ça, cette histoire de l'abbé de l'Épée ?
C'était au XVIIIe siècle. Après, il y a toujours eu plus ou moins une sorte de guerre entre les partisans de laisser les sourds s'exprimer avec la langue des signes et puis ceux qui trouvaient que les sourds devraient faire l'effort de parler comme tout le monde. Donc ça, on les appelle les oralistes. Et puis, hélas, au XIXe siècle, c'est les oralistes qui ont remporté cette guerre. Et qui ont purement et simplement interdit la langue des signes, l'usage de la langue des signes en France. Donc pendant quasiment 100 ans, parce que c'est seulement à partir de 1991 que les choses ont bougé en France, pendant 100 ans, la langue des signes a été interdite et continue à être pratiquée en secret, évidemment, enfin en secret relatif, mais voilà.
Et quelle justification à cette position insoutenable ?
Oui, oui, c'est juste insoutenable, c'est certain. J'étais pas là il y a un siècle, hein, mais c'était voilà, c'était juste que je pense que ça allait dans le sens de compenser le handicap avec des moyens d'entendant, donc avec une méconnaissance de la réalité du handicap et des possibles. C'est très difficile pour un sourd d'oraliser, puisque ce qui nous amène à parler, c'est qu'on entend. Et c'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc les sourds n'entendant pas, c'est très très difficile de parler. Bien sûr que à force de rééducation, d'un travail acharné et qui doit être très très pénible. Enfin voilà, il faut voir des reportages hein, sur comment ça se passe. C'est possible. C'est pas forcément confortable pour la personne sourde. Moi, j'ai l'impression, de mon point de vue d'entendante, que c'est nettement plus simple pour un entendant de pratiquer, d'apprendre quelques signes. Il n'y a pas besoin d'être bilingue pour signer, pour communiquer avec une personne sourde. Je dis toujours, quand vous allez en Angleterre, vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour acheter une glace et prendre le métro. Là, c'est pareil. On n'a pas besoin d'avoir son diplôme d'interprète pour communiquer avec une personne sourde. Mais pour nous entendants, c'est pas si compliqué d'apprendre quelques signes et pouvoir déjà entrer en communication avec quelqu'un d'autre. Alors que pour une personne sourde, c'est énorme de lui demander de faire avec son larynx des choses qui sont quand même voilà, qui sont difficiles parce qu'il n'entend pas.
Alors, dans cette langue des signes, il y a combien de gestes, parce que tu m'as dit que c'est eux-mêmes qui l'avaient inventé et que ça remonte à la nuit des temps, mais quand même, ça a été codifié depuis?
Oui, ça a été un peu codifié. C'est difficile de dire combien il y a de gestes. En fait, en langue des signes, on parle de configuration, c'est-à-dire qu'on place sa main d'une façon ou d'une autre, à un emplacement ou à un autre, avec l'expression du visage. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui font que... comment dirais-je, un signe qui peut sembler identique suivant la place qu'il a ou l'orientation de la main n'a pas le même sens. Donc c'est pas seulement un geste, quoi. Il y a, on va dire, une soixantaine de configurations courantes. Après, il y en a beaucoup plus pour les interprètes, les sourds eux-mêmes, les puristes. Mais bon, il y en a quand même une soixantaine qui est largement utilisée.
Ça me paraît pas beaucoup. Par exemple, si tu veux exprimer tomate, poivron, banane, etc.
Banane, tomate, poivron.
Pour trois légumes, t'en as déjà utilisé trois, alors qu'il y a des dizaines de concepts, il y a des centaines de fruits et de légumes, il y a les animaux, il y a les machines. Comment tu... Une presse à imprimer, par exemple.
Les animaux. Ah non, presse à imprimer, ça, j'avoue, je ne connais pas.
Une photocopieuse.
Une photocopieuse.
Ah d'accord, bon bah vous verrez pas.
Non, en fait, voilà, on a quand même deux mains, cinq doigts, un espace qui est relativement confortable autour de notre tête et de notre tronc, qui permet énormément de variations. Et puis on a notre visage. Nous, entendant, on donne du sens à nos propos en variant l'intonation de la voix. Les sourds le font avec leur visage. Donc voilà, suivant qu'ils froncent les sourcils, c'est-à-dire qu'un même signe, si je te fais ce signe-là, qui est triste, tu le vois dans mon visage. Mmh. Et si je fais ce signe-là, j'ai fait le même, tu vois, avec ma main, mais mon visage n'a pas bougé. Et du coup, ça veut dire tout autre chose, ça veut dire sévère.
C'est des gens qui sont très expressifs.
Oui, forcément.
Mmh. Maintenant que tu nous as exposé un peu tout le background et toute la théorie concernant la langue des signes, Sylvaine, on pourrait penser au témoignage de Violaine et d'Ananda. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un témoignage des raisons qui t'ont conduit à utiliser la langue des signes avec Sylvaine ?
Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, nous, la langue des signes, on en avait entendu parler par des amis. Bah, ça nous avait intéressé parce qu'on avait vu des bébés, des enfants qui signaient. Et c'est vrai qu'on avait vraiment été émus par la communication qu'il pouvait y avoir entre eux. Les parents et ces enfants-là, on trouvait que la communication était beaucoup plus importante qu'avec les autres enfants. Du coup, quand on est arrivé dans le DIY et qu'on a su qu'il y avait un atelier de langue des signes avec les enfants, on était très contents et on était vraiment contents de pouvoir participer à ces ateliers. Ces ateliers, c'était chouette parce qu'on échangeait aussi avec d'autres parents. Donc, il y avait toute une stimulation qui était là et les enfants étaient là et étaient très... intéressés et ils se demandaient au début ce qui pouvait nous amener là. Ils étaient petits, ils avaient entre 7 et 10 mois, je crois, 10-12 mois, quand on a commencé l'atelier des signes. Et puis pour nous, Ananda s'est mis à signer vers 10 mois, il a fait ses premiers signes, et puis après ça s'est enchaîné. Il en faisait de plus en plus, et c'était magique de le voir signer. Je pense qu'il faisait facilement 40 signes à la fin. C'était impressionnant en fait de voir comme il avait intégré tous les signes qu'on avait pu lui apprendre et comme il s'en servait pour communiquer avec nous. Puis petit à petit, il a commencé à parler de plus en plus. Donc les signes après, il en faisait moins, mais il ne les a pas complètement oubliés. Donc c'est chouette de voir que même aujourd'hui, quand on ne comprend pas un mot qu'il veut nous dire, souvent il fait le signe pour nous dire « voilà, c'est ça que je veux vous dire ». Et puis du coup, ça nous permet encore de pouvoir communiquer avec lui. Et je trouve que dans notre communication, ça nous a vraiment, vraiment apporté.
Et tu crois que le fait qu'il ait commencé par la langue des signes a pu accélérer une sociabilisation ou le fait de pouvoir rentrer en communication avec d'autres personnes ?
Mais on s'est beaucoup posé la question. Je pense que ça le stimule quand même beaucoup. Est-ce que ça a accéléré ? On ne peut pas en être sûr, puisque de toute manière, nous, on a choisi cette voie-là, donc on ne sait pas comment ça se serait passé autrement. En tout cas, il a du coup communiqué de manière très précoce. Et même le langage, ça... Certains nous disaient, mais si vous signez, après, il ne parlera pas. Mais non, en fait, parce que quand on signe, on parle. Et donc, lui, il comprend bien que ce n'est pas les signes ou les mots. C'est les deux ensemble. Et puis, petit à petit, les mots prennent le dessus. Mais moi, je pense que ça a quand même accéléré ce processus.
Là, par exemple, il a dit « maman, maman, maman ». Qu'est-ce que ça pourrait être en langage des signes pour les auditeurs qui ne voient rien?
Alors, c'est, le signe, c'est la main qui se rapproche de la bouche pour dire la maman qu'on appelle deux fois. Ça claque, enfin, ça, on tape à côté de la bouche deux fois. Voilà.
D'accord. Il l'a fait, le signe maman?
Alors, par contre, les signes qu'il n'a pas fait, c'est maman très peu, papa un tout petit peu. Mais non, ce signe-là, en fait, il est... Il a dit papa à 10 mois, il a dit maman à 10 mois et demi, il les a pas signés en fait. Mmh.
C'est souvent c'est les signes que les petits ne signent pas. Parce que ça fait partie des premiers mots, ou des premiers babils quoi, mama, papa, et puis c'est interprété par les parents comme maman, papa.
Ouais.
Et du coup, l'enfant n'a pas besoin de faire des signes pour faire comprendre ce qu'il veut. Donc souvent, je préviens les parents en fait que bien sûr je vais leur montrer ces signes-là, mais que certainement les petits ne les signeront pas.
Ouais, les premiers signes, en fait, c'est encore, la plupart du temps. Enfin,
oui,
surtout
c'est vrai,
les parents
souvent.
Qu'on...
Très souvent.
Bah, après, au revoir, bien sûr, mais tous les enfants, même non-signeurs, le font. Mm. Mais le encore, c'est vrai que ça vient très tôt.
C'est quoi, au revoir?
Au revoir, bah, au revoir, c'est comme ça, en fait. Mais bon, ils le font souvent, au revoir, comme on fait avec...
Comme on fait tous.
Comme on fait tous.
En agitant la main.
En agitant la main.
Voilà.
Et puis, tu penses que cet enfant a aussi peut-être une capacité supplémentaire, la capacité de rentrer en connexion avec les malentendants? Peut-être.
Eh ben, j'y ai pensé quand on avait commencé l'atelier des signes. Et pour qu'il garde cette capacité, il faudrait qu'on l'entretienne. Voilà, donc quand il faut, pour l'instant, c'est vrai qu'on signe de moins en moins. Donc si jamais on l'entretient pas, il l'oubliera, c'est sûr. Mais peut-être que ça reviendra vite si un jour il a envie de s'y mettre, je sais pas.
En même temps, je pense qu'il l'oubliera pas. Il l'a appris, c'est de la mémoire corporelle. Donc c'est profondément inscrit et j'ai pas de retour d'expérience encore sur le sujet, mais je suis persuadée que si dans plusieurs années il a l'occasion de côtoyer un enfant sourd qui signe, certains signes lui reviendront très facilement, ou peut-être il en apprendra très facilement parce qu'il aura utilisé ça avec son corps tout petit. Il a développé une capacité, je pense.
Comment ça se passait? C'est des ateliers qui durent longtemps. Comment apprend-on à des enfants des signes?
En fait, ce sont des ateliers, on a eu 5 ou 6, 6 rencontres avec Sylvaine et donc les autres parents. Ça a duré une heure officiellement, en fait. Ça a duré facilement plus d'une heure parce qu'après, on parlait entre nous, on échangeait. Mais Sylvaine a organisé des séquences d'une heure. Elle nous apprenait les signes, donc après, il y avait des petits jeux pour mettre ça en place, etc. Là, les enfants, en fait, nous, on a fait les ateliers, ils étaient encore petits. Donc, ils participaient pas franchement au sens propre du terme. Ils écoutaient, ils étaient attentifs. Il y avait des chansons, beaucoup. Donc, dès qu'il y avait des chansons, là, tout le monde arrêtait les jeux. Enfin, tous les enfants arrêtaient les jeux et regardaient les signes. C'était très rigolo. Et après, c'est nous. Comment ils apprennent les signes? C'est nous, quand on communique avec eux, on utilise les signes. Donc, comme le langage, hein, finalement. Ils l'intègrent et après ils refont pareil quand ils veulent demander quelque chose ou quand ils veulent s'exprimer.
C'est donc dans la vie de tous les jours qu'il y a une immersion dans cette façon de communiquer.
Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà.
Bien, merci pour ton témoignage.
Avec plaisir.
J'ai l'impression que Ananda a envie de bouger, alors je t'en prie, sentez-vous libre.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, merci en tout cas.
Merci Violaine.
Ouais, à bientôt Sylvaine.
Oh. Au revoir Ananda.
Au revoir, tu veux dire au revoir toi?
Cette langue de signes, pour bien la maîtriser, pour une personne entendante comme toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer par une formation?
Alors, y a deux choses. Moi, j'ai une formation en langue des signes. Si on vise le diplôme d'interprète, il faut savoir qu'il y a 12 niveaux. Je ne les ai pas. Moi, j'ai
alors,
ce qui me permet de communiquer d'une façon confortable avec les personnes sourdes. Ça ne me permettrait pas de traduire en simultané un reportage télévisé, par exemple. Je vais pas assez vite, voilà. Et puis j'ai pas tout le vocabulaire technique, je sais pas moi, je sais pas, des moteurs de voiture ou
un piston.
Voilà, par exemple. Et puis après, indépendamment de ça, j'ai aussi une formation donc dans cette pédagogie de bébé fais-moi signe, qui est propre à transmettre aux parents des signes utilisables avec leur bébé dans leur quotidien. Donc ça, c'est tout un ensemble, parce que c'est pas seulement donner des signes, c'est créer un environnement autour. C'est une pédagogie, quoi, c'est transmettre. Puis là, cette année, j'ai aussi fait une formation, toujours auprès de la même équipe, pour pouvoir former les crèches en fait à l'utilisation. Les crèches ou les structures petite enfance, les IME, enfin voilà, justement, qui accueillent des enfants handicapés, pas forcément seulement sourds ou malentendants. J'ai fait donc cette formation pour pouvoir initier les personnels de la petite enfance à utiliser les signes avec les enfants, à transmettre les signes utilisés aux parents de ces enfants. Enfin, voilà. Ça fonctionne pas pareil que les ateliers de parents, parce que c'est pas le même usage en réalité. C'est vraiment tout autre chose.
Donc non seulement tu transmets à des parents lors d'ateliers, mais aussi à des structures pour qu'eux-mêmes soient formés.
Voilà.
Pour transmettre le béaba, je dirais.
Voilà, l'idée dans une structure, c'est d'apporter un peu de fluidité dans la communication. C'est d'associer des signes aux gestes et aux propos, ce qui peut être rassurant. C'est utiliser plusieurs entrées cognitives, en fait. Quand on parle, on utilise l'ouïe. Quand on signe et qu'on parle, il y a l'ouïe et il y a la vue. Et puis, c'est très très important parce que quand on signe, on est vraiment connecté. Si je te signe quelque chose, mais que tu ne me regardes pas, tu vois, c'est communication zéro, quoi. Là, quand on parle et qu'on signe en même temps, ça c'est valable que ce soit en structure ou en famille, on est vraiment connecté à 100% avec la personne avec qui on communique. Quand c'est avec un enfant, c'est quand même très rassurant. Voilà, en structure, il y a aussi pas mal de routines pour ponctuer la journée. Voilà, donc on peut signer sur les comptines, c'est structurant. Et puis, ben, du coup, les crèches ou les collectivités qui accueillent un enfant malentendant ont aussi un moyen supplémentaire d'entrer en communication avec cet enfant et puis de le mettre en lien avec les autres aussi.
Oui, j'allais te poser justement cette question parce que cette langue des signes était originellement à destination des malentendants. Mm-hmm. Et alors là, toi, tu l'utilises pour entrer en communication avec des bébés ordinaires.
Absolument. Tous les enfants ordinaires ou extraordinaires ont le même besoin d'entrer en communication avec leurs parents en premier lieu et avec l'entourage par la suite. Simplement, même un enfant qui n'est pas malentendant, son larynx ne sera pas mûr avant un certain temps, c'est en général entre 2-3 ans, pour qu'il puisse reproduire clairement des sons qu'il a entendus et qui, associés ensemble, vont faire des phrases. Ça vient quand même assez tardivement, finalement. Or, son cerveau va beaucoup plus vite, dès même avant sa naissance, hein, on le sait aujourd'hui par les études qui sont faites in utero, l'enfant enregistre, capte. Donc, en fait, il comprend absolument tout. Et il a envie de communiquer, il a envie de dire des choses. Quand il n'a pas la parole, qu'est-ce que fait un enfant pour communiquer? Il utilise son corps. D'ailleurs, on voit tous des enfants trépigner, se balancer. Voilà. Et les premiers gestes qu'on fait tous entendant, au revoir, bravo. Enfin, on utilise nos mains, hein, quand on fait les petites comptines, les marionnettes, etc. On utilise spontanément nos mains. L'enfant utilise spontanément son corps aussi. Bon, simplement, un enfant qui trépigne, c'est pas très agréable pour se faire comprendre et on n'est pas sûr de tomber juste. Donc finalement, si on peut lui donner quelques signes qu'il va pouvoir réutiliser quand ça va tomber juste pour lui, ça va apporter énormément de calme, de fluidité dans la communication avec lui, ce qui est quand même bénéfique pour la relation, parce que c'est plus agréable. Parce qu'un enfant qui s'énerve parce qu'on ne le comprend pas, même si on est très très patient, c'est pas agréable, ça peut être énervant. Certains parents peuvent même se sentir coupables de pas comprendre leur enfant. Enfin, voilà. Ça, c'est juste un outil. Bon, je dis juste pour pas culpabiliser tous ceux qui ont pas envie de s'en servir. Il n'y a pas de raison, hein, de culpabiliser. On fait ce qu'on peut, comme on peut. Mais c'est un outil qui est merveilleux.
En tout cas, moi, quand je vois les malentendants s'en servir, c'est superbe, en fait.
C'est gracieux.
C'est gracieux, c'est expressif. Moi, ça m'aurait donné envie.
Ouais.
Alors, donc, comment ça se passe, un atelier où tu transmets à des parents et à des enfants, parce qu'ils sont tous présents, hein, je suppose, c'est pas que les enfants, tout le monde est là.
Oui, non, je garde pas les bébés. Alors, les bébés sont les bienvenus parce que c'est un bain pour eux, parce qu'ils sont avec leurs parents, ils sont très bien. Donc, c'est effectivement les parents, ou des fois, c'est un des parents. C'est super quand les deux parents peuvent être présents, mais c'est pas souvent, pas toujours le cas. Donc, c'est le bébé avec au moins son papa ou sa maman. En général, dans les sessions de 6 ateliers, donc ça fonctionne par cycle de 6 ateliers, j'accueille au maximum 6 familles, parce que je pense qu'au-delà, c'est trop. Les signes, en fait, pour bien s'en imprégner, ben, il faut les répéter, il faut les revoir dans tous les sens, j'ai envie de dire, et j'utilise au maximum tous les sens. Voilà. Donc on joue beaucoup, on chante. Quand on chante, les enfants, ils restent juste, ils arrêtent tout. C'est magique. À chaque fois, je le fais remarquer aux parents, c'est magique. On est en train de jouer, de signer. Les enfants, eux, ils sont au milieu avec des jouets. Et tout à coup, ils lâchent tout. Ils se retournent et ils nous regardent et ils nous écoutent avec une attention. Mais c'est magique, vraiment. Les enfants aiment les gestes associés aux comptines.
Il faut quand même un certain nombre de fois pour que ça finisse par être intégré.
Ce qu'il faut, c'est arriver à faire entrer les signes dans son quotidien. On n'a pas trop l'habitude de parler avec ses mains, par chez nous, en tout cas. Donc, c'est un peu déroutant au début. C'est tout d'un coup, on parle à son bébé et en même temps, on se met à faire des gestes. Alors que, bon, souvent, on a appris à avoir les mains sur la table. Bon, voilà. Donc, c'est l'habitude, en fait, à prendre, qui, des fois, peut prendre un peu de temps pour les parents. Mais c'est la clé. En fait, vraiment. C'est-à-dire que si le parent intègre les signes dans son quotidien, le bébé va signer. Vraiment. C'est dans tous les parents qui ont suivi mes ateliers, donc maintenant j'en anime depuis 2009, chaque fois j'ai les mêmes retours. C'est-à-dire soit j'ai des parents qui me disent non, ils signent pas beaucoup, mais enfin c'est vrai qu'on n'a pas trouvé le temps. Et par contre, des parents qui ont pu facilement associer le geste à la parole, les enfants ont signé, mais des fois c'était stupéfiant. Alors moi, je les rencontre en plus. Souvent, on se rencontre sur le marché. Et donc, ils me disent, ça y est. Ils signent encore, bonjour. Voilà, c'est super.
Et avec des bénéfices pour l'enfant, pas tant.
Oui, forcément, puisque l'enfant se fait comprendre. Il n'est pas frustré. Les choses sont claires. Enfin, je veux dire, un enfant qui pleurniche, par exemple, on ne sait pas trop pourquoi. On va lui dire... t'es fatigué, tu veux que je te porte alors, on le porte, mais il pleurniche toujours. Non, mais en fait, c'est juste qu'il voulait un petit bout de pain, là. On sort de la boulangerie, il voulait un bout de pain. S'il a le signe pain, il pleurniche pas. Il fait le signe pain, et c'est tout simple.
Je vais revenir un petit peu en arrière, parce que quand j'ai exprimé mon ébaubissement devant le faible nombre de configurations, 60 que tu m'as évoquées.
Oui, les plus courantes. Hein.
Voilà, les plus courantes, mais il y a non seulement les noms, mais il y a aussi les verbes. Les actions, par exemple, le fait de marcher, est-ce qu'il y a un signe pour le fait de marcher ou des trucs plus complexes, parler ou...
Bien sûr, y a des signes pour absolument tout.
Alors comment tu peux expliquer qu'il y en ait un si faible nombre?
J'ai pas dit qu'il y avait 60 signes, dit qu'il y avait 60 configurations, c'est-à-dire les configurations, c'est des positions de la main ou des doigts. Bon, la radio, ça passe pas, mais tu vois, ma main, là, ma main ouverte, alignée, je sais pas comment on pourrait dire pour que ce soit plus visuel, je la fais comme ça. Elle peut être comme ça. Tu vois, là, elle est face à toi. Là, elle est dos à toi. Là, elle est couchée. Là, elle est debout, doigt en bas. Rien que ça, tu vois, déjà, dans une même position de la main et dans le même emplacement, c'est-à-dire que j'ai fait tout à peu près là devant mon torse, ça n'a pas le même sens. J'ai pas dit qu'il y avait 60 gestes. Il y a 60, à peu près les plus courantes configurations, c'est-à-dire position de la main, dans l'espace. L'espace compte aussi, l'expression du visage.
Et c'est compliqué alors comme langue ?
C'est compliqué. Encore une fois, pour communiquer avec son bébé, il n'est pas nécessaire d'apprendre la langue. Après, c'est une langue, oui, elle a ses complexités, puisque c'est une langue. Elle a une histoire, donc elle a une étymologie, entre guillemets, puisque les signes ont une histoire. Elle a une syntaxe, puisqu'il faut bien exprimer le passé, le présent, l'avenir.
Il est reconnu internationalement, c'est la même partout ?
Alors, ce n'est pas la même partout, parce que justement, elle a une histoire. Qu'est-ce qui fait une langue ? C'est la culture. C'est les gens qui la font vivre, donc c'est le bain culturel qui construit la langue. Maintenant, il y a un gros tronc commun de signes qui est le même, quelle que soit la langue des signes. Et puis, c'est un tronc commun important, qui doit avoisiner les 80%. Et puis, il y a 20% qui changent, mais en fait, quand les personnes sourdes se rencontrent, elles disent « Ah, toi, tu signes ça comme ça ? Ah oui, d'accord. » Et hop. C'est reparti, quoi.
Ça pourrait être un espéranto, alors.
Ça serait chouette.
Sylvaine, pourquoi a-t-on éprouvé le besoin d'utiliser des signes avec des enfants ?
Alors ça, c'est né, j'allais dire par hasard, mais c'est pas tout à fait par hasard. En fait, le concept, il est né aux États-Unis dans les années 80. Deux psychologues californiennes, je crois, qui travaillaient auprès d'enfants, ont remarqué que les enfants utilisaient spontanément des signes pour communiquer entre eux, les enfants préverbaux. Du coup, elles se sont dit, mais pourquoi pas ? Elles ont commencé par expérimenter avec leurs propres enfants. Et elles se sont dit, mais oui, mais c'est clair, quoi. Quand je dis à mon enfant, ça c'est la poubelle, je préfère que tu touches pas, il me refait le signe poubelle. Et donc, puisqu'elles étaient en contact avec des enfants compte tenu de leur métier et qu'elles avaient la possibilité de mener des études, c'est ce qu'elles ont fait. Donc, elles ont commencé à introduire les signes dans leur pratique, à former des gens pour qu'ils introduisent les signes dans leur pratique aussi. Et puis, elles ont étudié tout ça. Et après 20 ans d'études, elles se sont aperçues que oui, c'est un outil qui élargit le potentiel de vocabulaire de l'enfant. C'est-à-dire que d'associer un signe à la parole, ça étaye. Voilà, on va plutôt dire ça. Ça étaye le développement du vocabulaire de l'enfant. Et puis, ça renforce le lien d'attachement aux parents parce que l'enfant, il n'est pas frustré de ne pas être compris tout le temps. Il est compris dans ce qu'il dit, donc forcément, c'est agréable. Ça, c'est un besoin fondamental humain. Voilà, donc en fait, c'est né aux États-Unis dans les années 80 et en France, c'est arrivé en 2005-2006. Voilà.
Ah, c'est très récent, là.
C'est très récent. Et c'est parce qu'une maman française qui vivait aux États-Unis l'avait pratiqué aux États-Unis avec son fils. De retour en France, elle voulait continuer et elle se rend compte que ça n'existe pas. Et elle se dit, bah mince alors. Et puis, elle a l'opportunité de rencontrer Monica Compagni, qui est une personne sourde, qui est auteure, comédienne, éditrice, formatrice. C'est auprès d'elle que j'ai fait mes formations. Elles ont ensemble étudié une pédagogie pour pouvoir communiquer ça aux parents. Et donc, les premières formations d'animatrices ont dû avoir lieu dans les années 2006. Ça répond à un besoin des parents, parce que maintenant, je crois qu'il y a 3 ou 4 organismes de formation de formatrices. Moi, j'ai été formée par Monica Compagni, qui est de l'association Bébé Fais-moi signe, à Angers. Mais il y en a d'autres.
Combien d'associations comme la tienne utilisent cette technique
Je pense qu'il y en a pas mal en France. Hein. Il y en a peut-être pas encore dans tous les départements, mais il y en a.
Donc le virus a bien pris, quoi.
Le virus a bien pris, et tant mieux, parce que c'est un bon virus.
Oui, j'allais te le dire. Bon, alors Sylvaine, pour cet atelier qui va avoir lieu donc lundi 16 à 15h30 au Loco-Loco, y a-t-il encore des places? Et faut-il réserver?
Alors, il y a des places. Donc, les Loco-Loco, c'est un restaurant à 10. Vincent nous prête son espace. Donc, il y a de la place, il n'y a pas de souci. C'est bien si les parents qui veulent participer m'envoient un mail, parce que moi, je sais à peu près combien de personnes j'ai. Du coup, j'adapte aussi les jeux. C'est un atelier découverte. Hein, donc, voilà, je vais donner quelques signes. On va expérimenter ensemble quelques signes. Voilà, c'est gratuit. Et c'est une récréation, c'est pas un concours, il n'y a rien à perdre.
Et alors, c'est des parents avec des enfants de quel âge?
Des enfants préverbaux. Hein, voilà, c'est des enfants qui n'ont pas encore la parole. Donc, de 6 mois à 2 ans à peu près.
Petite question subsidiaire qui n'a apparemment pas grand-chose à voir, mais ça pourrait bénéficier à des enfants légèrement ou carrément plus âgés?
Complètement. Alors, j'ai déjà fait des interventions en milieu scolaire. Il m'a semblé, en tout cas mon expérience, avec des petits juste au-dessus, genre 3-5 ans, c'est un peu prématuré pour eux parce que j'ai l'impression qu'ils sont dans d'autres besoins. Donc, j'ai l'impression que bon, c'est pas forcément ce qui leur plaît. Ils sont dans d'autres besoins. En revanche, l'expérience que j'ai eue avec des 5-10, donc école primaire, c'était vraiment bénéfique pour tous. Il n'y avait aucun enfant malentendant hein, dans les deux groupes d'enfants, mais ça a créé quelque chose entre eux. C'est-à-dire que les instincts disaient qu'à la récréation, ils signaient entre eux, qu'elles pouvaient utiliser un signe, voilà, par exemple le signe calme. Toujours pareil, l'enfant se reconnecte puisque ce n'est pas seulement le maître qui va crier « silence !» Et ben non, il va faire le signe. Donc il y en a qui le voient, qui se taisent. Tu vois, ça c'est calme. Voilà, enfin, ça avait créé quelque chose qui était sympathique. Donc oui, moi, je pense que c'est bénéfique. Et puis là, ils sont vraiment à un âge où ils sont beaucoup plus dans l'ouverture sur le monde extérieur et où, effectivement, s'ils ont l'occasion de côtoyer un enfant malentendant qui signe, ils pourront échanger quelques signes. C'est quand même très agréable, quoi.
Tu as dit que cet atelier était gratuit aux Loco-Loco lundi.
Oui.
Mais est-ce que tu fais des prestations rémunérées à l'intérieur de cette association ou est-ce que c'est toujours gratuit et...
Alors les ateliers, le cycle de 6 ateliers par la suite n'est pas gratuit. Il n'est pas très très cher non plus. Il est de 65 euros parce qu'il faut que ça reste accessible à tous les parents. Donc voilà, c'est une participation.
Et tu en fais beaucoup?
Je fais entre 2 et 3 cycles par an là sur le DIWA.
Ah, c'est pas avec ça que tu vas faire bouillir la marmite alors?
Non, c'est pas mon activité principale.
D'accord, c'est juste une passion alors.
Oui, j'ai envie de convaincre les parents que d'essayer, parce que c'est vraiment une belle façon de communiquer avec son enfant. C'est les prémices de la communication non violente en fait, ou de la communication bienveillante, je préfère ce terme-là.
Très bien, ben Sylvaine, on va le répéter une dernière fois, si ça intéresse des parents avec leurs enfants, préverbaux, rendez-vous le lundi 16 à 15h30 au Loco Loco, c'est gratuit, mais prévenez Sylvaine de votre intérêt.
Oui, si possible, sinon c'est pas grave, vous serez les bienvenus.
Et puis, d'aventure, Sylvaine, on va rappeler quand même tes coordonnées pour d'autres personnes qui pourraient ne pas venir, mais par contre qui seraient intéressées par ton cycle.
Ouais. Alors les coordonnées du site, c'est en minuscule tout attaché au pluriel signe-et-marmot.free.fr. Et sinon l'adresse mail, toujours pareil, en minuscule tout attaché au pluriel signe-et-marmot@gmail.com.
Merci Sylvaine.
Merci à toi.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.